Morgane Diriec et Chérubin Gaby Dorcil. Bonsoir et bienvenue à tous.
Mardi 8 novembre 2016. Jour J, ici aux États-Unis, les Américains élisent leur 45e président.
Émission spéciale ce soir, on fera le point en direct des bureaux de vote avec nos envoyés spéciaux et correspondants.
Jacques Aristide nous parlera de New York.
Hillary Clinton, la candidate démocrate, a voté ce matin vers les 8h, là où elle réside, à Chappaqua.
Quel que soit le vainqueur, cette présidentielle revêt un caractère historique. Nous dresserons le portrait des deux principaux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump.
Explication du système électoral.
Impression de ceux qui ont voté.
D'abord, un rapide tour d'horizon de l'actualité.
Le Niger, frappé par une attaque terroriste tôt ce matin, 5 soldats nigériens ont été tués et 4 sont portés disparus à Bani Bangou, dans l'ouest du Niger, près du Mali. Les assaillants sont venus à bord de 2 véhicules et 10 motos. Ils étaient lourdement armés, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur.
Explosion d'une grenade à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une fillette a été tuée et 31 casques bleus indiens ont été blessés aujourd'hui dans la capitale de la province du Nord Kivu. D'après l'ONU, les casques bleus du contingent indien faisaient du sport dans le quartier Kichero au moment de l'explosion.
RDC toujours, la nomination d'un nouveau Premier ministre devrait intervenir dans une semaine. C'est ce qu'annoncent les chefs des délégations de la majorité et de l'opposition au Dialogue national. Le nouveau Premier ministre sera chargé d'organiser le scrutin présidentiel reporté en République démocratique du Congo. Rappelons que le 18 octobre, la majorité, une frange minoritaire de l'opposition, ont signé un accord qui prévoyait de constituer un gouvernement d'union nationale dirigé par un Premier ministre d'opposition au plus tard le 8 novembre.
Sachez enfin, toujours concernant le Congo, que 2 journalistes arrêtés à Kolwezi, Carton Kassong et Gaston Mouchid, pour avoir diffusé l'interview d'un opposant au président congolais Joseph Kabila, ont été libérés ce mardi après 24 heures de détention. C'est ce qu'a annoncé l'un d'eux à l'agence France Presse.
En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires ont entamé un mouvement de grève de 72 heures, largement suivi dans le secteur de l'éducation, en vue de dénoncer une réforme des retraites dans le pays qui baisse les pensions de 30 à 50%.
En Mauritanie, une trentaine de dockers du port de Nouakchott en grève pour protester contre une réforme de leur activité ont été arrêtés lundi après des heurts avec les forces de l'ordre. C'est ce que rapporte l'AFP. Les agents ont été obligés d'intervenir pour protéger les non-grévistes face à un mouvement violent de leurs collègues qui ont brisé les barrières du port pour occuper les lieux et les empêcher de travailler, a précisé une source auprès de la gendarmerie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, la marche des troupes gouvernementales et de leurs alliés se poursuit en direction de Mossoul, grand fief du groupe État islamique dans le nord du pays. Des combattants kurdes irakiens ont fait sauter l'un des derniers verrous du groupe en prenant aujourd'hui la ville de Bachika. L'offensive contre Mossoul a commencé le 17 octobre. Entre-temps, en Syrie, la force arabo-kurde continue de progresser vers Raqqa, autre grande ville encore contrôlée par les djihadistes.
Les policiers français ont identifié un des organisateurs à partir de la Syrie des attentats de Paris et de Bruxelles. Il s'agit du belgo-marocain Oussama Attar, surnommé Abu Ahmad, un vétéran du djihad et membre du groupe État islamique. Cette avancée intervient quelques jours avant la commémoration ce week-end en France des attentats de Paris et la réouverture samedi de la salle de concert du Bataclan qui avait été attaquée par les djihadistes.
L'Arabie saoudite accuse les rebelles chiites houthis du Yémen d'avoir confisqué l'aide humanitaire destinée à la population civile. Au moins 34 bateaux ont ainsi été saisis sur une période de 6 mois, selon le général Ahmed Assiri, porte-parole de la coalition arabo-yémen. L'ONU n'a aucun représentant sur place pour superviser la distribution de cette aide bloquée dans le port d'Hodeïda, le dernier que contrôlent les houthis. Rappelons que la guerre au Yémen a fait plus de 7 000 morts depuis mars 2015.
La Cour suprême britannique a annoncé aujourd'hui qu'elle examinerait du 5 au 8 décembre l'appel du gouvernement contre la décision de la Haute Cour de Londres de l'obliger à consulter le Parlement avant de lancer le divorce avec l'Union européenne. Sa décision sera connue probablement en début d'année prochaine, a ajouté la Cour suprême, précisant que le cas sera examiné par la totalité de ses 11 juges. Les Britanniques, rappelons-le, se sont exprimés lors du référendum du 23 juin pour leur retrait de l'Union européenne.
De retour avec vous, Morgan Diriec et Gabi Dorsil, pour cette édition spéciale élection présidentielle américaine 2016.
La candidate démocrate Hillary Clinton a voté peu après 8 heures ce matin dans une école élémentaire près de son domicile de Chappaqua dans l'État de New York. Attendue plus d'une heure par une foule enthousiaste d'environ 150 personnes, elle a voté en compagnie de son mari, l'ancien président Bill Clinton. Sa réaction au sortir du bureau de vote.
C'est une sacrée leçon d'humilité. Vous savez que je suis consciente des responsabilités, de ce que cela signifie pour notre pays. Tellement de gens qui comptent sur le résultat de cette élection. Je ferai tout mon possible si j'ai la chance de gagner aujourd'hui. Merci.
Le candidat républicain a lui aussi voté. Donald Trump a ainsi déposé son bulletin à New York ce matin.
Il faut dire qu'on a commencé à voter très tôt ce matin, surtout dans l'Est des États-Unis. Évidemment, à cause du décalage horaire, les États de l'Ouest votent 3 heures plus tard. Nous allons maintenant retrouver à New York notre collègue Jacques Aristide. Alors Jacques, si je ne me trompe pas, vous êtes à Times Square. Comment est l'ambiance? Jacques Aristide, est-ce que vous nous recevez? Apparemment, nous avons des difficultés techniques. On essaiera un peu plus tard dans cette édition de joindre Jacques Aristide. Il couvre cette journée électorale pour VOA Afrique à New York.
À Boston, dans le Massachusetts, on s'attend à peu de surprises. Les démocrates étant donnés largement favoris, le journaliste haïtien Yves Cajuste dirige la station de télévision MCTV. Alors, comment est la situation chez vous, Yves?
Voilà, vous avez si bien dit. Aucune surprise dans l'État du Massachusetts. Les 11 voix et du collège et électoral sont gagnés d'avance par Hillary Clinton, puisque c'est un État, comme vous l'avez si bien dit, foncièrement démocrate. Mais il faut dire que pendant les 10 jours qui ont précédé cette journée électorale, environ 1 million de résidents de l'État du Massachusetts ont déjà voté, selon les statistiques qui ont été communiquées par le secrétaire d'État, je dirais, du Massachusetts, M. Galvin. J'ai fait un petit tour ce matin dans plusieurs villes du Massachusetts, notamment la capitale Boston. Il n'y a pas la grande foule. La grande foule, étant donné que non seulement c'est un État Massachusetts, il faut dire également que certaines positions ne sont pas concernées par la journée d'aujourd'hui, puisque dans le Massachusetts, on a déjà élu un républicain, M. Becker, en 2014. Le maire de Boston, et il a pris sa fonction également en 2014. Au niveau d'autres fonctions, par exemple l'attorney général Maura Ely, elle est rentrée en fonction en 2015. Et même situation pour la trésorière du Massachusetts. Et même à part la ville de Boston, certaines grandes villes, il n'y a pas eu d'élection, je dirais, municipale dans les pas d'élection municipale dans certaines grandes villes et de l'État du Massachusetts.
Merci. C'était donc Yves Cajuste qui dirige la station de télévision MCTV.
On essaie maintenant de retrouver Jacques Aristide à New York. On a beaucoup plus de chance maintenant, Jacques, vous le recevez très bien.
Oui, cher Ruben, bah, écoutez, on est au four et au moulin en même temps. Vous savez, on est en train de faire des directs pour nos chaînes partenaires en Afrique et tout ça. Bon, ben voilà. Mais quand même, on est là pour la radio. Bah, écoutez, cher Ruben, je suis ici et devant le bureau de vote à Times Square, entre la 8e avenue et la 43e rue. Alors, je vous le disais un peu plus tôt, le mouvement est assez lent ici. Hein. Alors, comme ailleurs sur la côte est des États-Unis, ce bureau est ouvert depuis 6 heures ce matin, mais contrairement à d'autres endroits dans d'autres états du pays, je n'ai pas vu de file d'attente devant ce bureau depuis ce matin, mais les gens viennent voter même à un rythme lent. Et vous savez, en fait, j'ai à côté de moi un électeur, quelqu'un qui est venu voter ce matin, c'est Taylor, et très rapidement, je vais demander à Taylor voilà, s'il y a eu un thème quelconque et vous savez des défis quelconques qui l'a poussé à venir voter. So, what were the issues that really pushed you to come and vote today, Taylor?
So we didn't really get to. Both campaigns here were on the defensive. We didn't get to hear a lot about issues or what candidates really stood for, but why they thought they were most qualified for president. So I had to vote based on who I thought best reflected myself, my ideals, and I thought would represent America abroad, and so that was Hillary for me.
Et voilà, cher Ruben, vous l'avez entendu, hein, donc Taylor qui dit que au cours de cette campagne, ils n'ont pas beaucoup entendu parler des enjeux, et donc pour lui, l'important c'était de voir qui était le candidat ou la candidate qui était la plus qualifiée. Et pour lui, il n'y avait pas de doute, c'est Hillary Clinton qui était la personne la plus qualifiée durant cette campagne. Et voilà, donc, et pour vous dire aussi, en fait, l'État de New York compte environ 12 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Et donc, il n'a pas eu, en fait, durant ces dernières élections, vous savez, le taux de participation n'a pas été très fort. En fait, ça a tourné autour de 20%, chez Ruben. Mais donc, ce sera intéressant de voir, comme c'est une élection hors du commun, ce sera intéressant de voir si les gens dans l'État de New York sont sortis en masse pour venir voter chez Ruben.
Merci Jacques. Jacques Aristide de VOA Afrique nous parlait de New York.
Morgan Diriek et Chérubin Dorsil pour cette édition spéciale élection américaine, riche en rebondissements. Hein. L'élément clé, c'est celui ou celle qui vote. Plusieurs personnes votent pour la première fois, joint à New York par Nani Talani. Le professeur Mamadou Diouf, d'origine sénégalaise, estime qu'Hillary Clinton est mieux placée pour présider aux destinées des États-Unis.
J'ai le sentiment d'avoir accompli un devoir normal de citoyen. Être un citoyen, c'est participer à, non seulement au vote, mais participer à la vie communautaire, parce qu'on ne représente pas seulement soi-même. Dans le système américain, on représente aussi une communauté. Ce que ça veut dire, c'est que je suis un membre d'une communauté, la communauté noire en général, la communauté africaine, mais aussi je suis membre d'une autre communauté qui est la communauté musulmane. En tout cas, malgré la dureté de la campagne, malgré l'intervention du FBI avant le vote, je pense que Hillary a encore des chances de gagner pour des raisons purement structurelles. C'est-à-dire la démographie américaine est aujourd'hui une démographie qui est contre un candidat comme Donald Trump. On le voit avec l'extraordinaire participation des Latinos, comme on les appelle ici.
Voilà, c'était le professeur Mamadou Diouf, d'origine sénégalaise.
Bertrand Djiki, d'origine camerounaise, espère lui aussi que Hillary Clinton continuera l'œuvre de Barack Obama.
C'est parti de nos devoirs. Décision pour choisir la personne qui va diriger le pays dans les 4 prochaines années et certainement mettre beaucoup de choses en place pour améliorer certainement le système de vie. Je continue à penser qu'Hillary va gagner. Hillary est extrêmement différente de son concurrent, que ce soit sur le plan social ou bien sur le plan économique. L'agenda d'Hillary va certainement non seulement nous protéger, et aussi peut-être permettre de étendre le développement économique. Et aussi, on pense que ce sera important. Et Larry gagne aussi pour protéger tout ce que président Obama a fait jusqu'ici pour améliorer les conditions de vie des middle class et de low income.
L'électeur Bertrand Djiki, qui est d'origine camerounaise.
Nathalie Barge a contacté Arlington en Virginie. Thomas Amtoum, conseiller en santé mentale, originaire du Cameroun, tout juste avant qu'il ne quitte son domicile pour aller voter.
Je pense qu'avec ce nouveau souffle de Trump et avec tout ce qu'il propose, l'Amérique verra de beaux jours. Par exemple, je pense au niveau de l'éducation. Le système actuel ne permet pas qu'un parent puisse choisir l'école pour laquelle il voudrait que son enfant puisse y aller. Parce que le système qui est mis en place, c'est que l'enfant doit rester dans la circonscription où il habite. Il ne peut pas aller hors de cette circonscription-là. Alors, maintenant, là, nous, avec la proposition de Trump, le parent pourra choisir. Moi, par exemple, mon enfant, il a besoin de changer, il a besoin de quitter l'école dans laquelle il est actuellement. Mais il ne peut pas parce que le système qui est mis en place actuellement ne lui autorise pas de partir. Il y a quelques années en arrière, je votais démocrate et cette année particulièrement, je voudrais partir républicain.
Thomas Amtoum, citoyen américain de l'État de Virginie.
Nombre d'électeurs américains ont voté par anticipation, comme Pepita Crackby. Elle est présidente de l'ONG La Main Tendue. Originaire de Côte d'Ivoire, elle a voté à Silver Spring dans le Maryland jeudi dernier.
Cette élection est particulière, c'est un peu comme Obama, le premier noir qui a été voté aux États-Unis et la première femme cette année qui se présente pour les élections présidentielles. Une femme qui a le savoir sur toutes les facettes du monde entier. Donc je veux prouver ma reconnaissance en cette nomination. Ma fille n'est plus au lycée, mais l'école aux États-Unis coûte très cher. Et quand les enfants finissent, ils ont des crédits à payer sur des années et des années, à tel point qu'ils ne savourent pas leur curriculum, leur fin de curriculum. Et là, j'ai aussi voté pour. Il faut alléger, donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école à un prix moindre.
Pepita Crackby, citoyenne américaine résidant dans le Maryland.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Qui sont les deux principaux candidats qui s'offrent aujourd'hui au choix des électeurs américains? D'abord, la démocrate Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État américaine qui est âgée de 69 ans, l'ex-première dame, veut être la première femme à diriger les États-Unis. Son portrait avec Lionel Gaïma.
Hillary Clinton a failli remporter les élections de 2008 après une campagne acharnée. Elle a dû renoncer à ses ambitions face au jeune sénateur Barack Obama. Lors de son discours de concession, elle a parlé de sa lutte pour aider les femmes à surmonter les obstacles parfois appelés le plafond de verre.
Grâce à vous, ce plafond a maintenant 18 millions de fissures. Et la lumière brille à travers comme jamais auparavant. Cette lumière nous remplit d'espoir et de certitude que le chemin sera un peu plus facile la prochaine fois.
8 ans plus tard, Clinton a remporté la nomination et espère briser le plafond de verre ultime pour devenir président. Fille d'un père républicain, la petite Hillary est tombée dans la politique à cause de sa mère démocrate. Adolescente, Hillary était républicaine. Elle a étudié à Wesley College. Elle est devenue plus engagée politiquement. Elle a aussi fréquenté les bancs de Yale Law School, où elle est devenue une démocrate progressiste. C'est là où elle a rencontré son futur mari, Bill Clinton. Ils se sont mariés en 1975 et elle l'a suivi dans son état de Arkansas, où il a été élu gouverneur en 1978. C'est ici que Ron Fournier a couvert la famille pour la première fois. Il a fréquenté le couple à Little Rock et plus tard à la Maison Blanche.
Bill Clinton a un très bon sens de l'humour. Elle en a aussi. Elle a de l'autodérision. Cet humour qui plaît à beaucoup de gens.
L'ancien porte-parole de Bill Clinton à la Maison Blanche, Bob Weiner, nous raconte que Hillary fait preuve de beaucoup plus d'intelligence quand il s'agit de résoudre des problèmes et trouver des solutions que Bill Clinton ou le président Barack Obama mais elle n'a pas quelque chose qu'ils ont.
Elle sait qu'elle n'a pas le charisme, mais elle a l'intelligence et le pouvoir, ce qui est énorme.
Forgeant sa propre carrière politique, elle a remporté l'élection à New York pour le Sénat des États-Unis en 2000 et a été réélue en 2006. En 2008, Obama l'a nommée son secrétaire d'État. Elle a visité 112 pays et a utilisé son travail pour mettre en exergue les droits des femmes et le pouvoir de la diplomatie surnommée « soft power ». Maintenant, Hillary Clinton se trouve dans le combat politique de sa vie, la course à la Maison Blanche, le 8 novembre.
Le républicain Donald Trump n'est pas un politicien traditionnel. Il a 70 ans et vient du monde des affaires. Son portrait avec Michel Joseph.
Aucun candidat n'a autant surpris l'électeur américain que Donald Trump. Né dans le Queens, à New York.
Son père était très autoritaire, très exigeant. Et bien sûr, Donald a hérité de ses traits et caractéristiques.
En 1968, Donald Trump est sorti diplômé de la prestigieuse école des finances, The Wharton School. Trump avait cultivé des contacts d'affaires de son père. Avec son soutien, Trump a mis en place sa propre entreprise avec un investissement $1 million.
New York est le plus grand marché de l'immobilier dans ce pays. Il a eu quelques succès, mais il a aussi eu quelques échecs.
Dans les années 1970, le ministère de la Justice a accusé la société de Trump de violer la loi sur l'égalité dans l'immobilier, puisqu'il avait empêché les minorités de louer dans ses bâtiments. Trump a réglé l'affaire à l'amiable. Il est peut-être mieux connu pour la tour Trump, un complexe de $200 millions. Trump est également connu pour la construction de casinos. Lorsque le marché de l'immobilier a chuté en 1990, la valeur de son empire est passée de $1.7 billion à $500 millions. Il a emprunté de l'argent et a trouvé de nouveaux investisseurs pour éviter la faillite. Son émission de télé-réalité, The Apprentice, a fait de Trump une star. Les participants faisaient la compétition pour être des gestionnaires dans l'empire Trump.
You're fired.
Trump a été payé plus de $200 millions pour cette émission. Trump a montré publiquement son intérêt pour la politique la première fois à la fin des années 80.
I am officially running for president of the United States.
Le candidat Trump a multiplié des déclarations controversées.
Lorsque le Mexique envoie ses gens, ils n'envoient pas les meilleurs. Ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes et ils nous apportent ces problèmes. Ils viennent avec la drogue. Ils viennent avec des crimes. Ils sont des violeurs et quelques-uns, j'imagine, sont de bonnes personnes.
Sa solution controversée, construire un mur à la frontière des États-Unis. Ensuite, Trump a appelé à une interdiction d'entrée des musulmans aux États-Unis suite à une attaque terroriste en Californie.
Les élections américaines sont très suivies sur le continent africain. Et à Abidjan, l'ambassade américaine a organisé une conférence sur le processus électoral. Claire Morin-Gibourg a joint notre correspondante sur place, Émilie Yob.
Ce soir, l'ambassade américaine à Abidjan organise une petite soirée électorale dans un maquis. Donc le public ivoirien est invité à suivre le déroulement du vote tout au long de la soirée. Et puis selon le patron d'un restaurant américain, des clients ont aussi prévu de suivre les événements chez lui à la télévision. Et donc les gens s'intéressent, on pose beaucoup de questions par rapport au processus électoral qui est très différent du processus ivoirien. Et beaucoup de gens disent que effectivement l'issue du vote des élections va impacter tout le monde.
Comment les Africains voient-ils les deux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump ?
La plupart des gens savent identifier qui est Hillary Clinton, qui est Donald Trump. Après, en termes de programme, Clinton est un inconnu en Afrique de par son mari. Donald Trump est vu comme un homme d'affaires. Mais en tout cas, aux gens à qui j'ai pu parler ces derniers jours, beaucoup plus d'Ivoiriens ont une préférence pour Hillary Clinton par rapport à Donald Trump. Enfin, en fait, le parti du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, qui a ouvertement affiché son soutien à Donald Trump.
Émilie Yob, correspondante de La Voix d'Amérique à Abidjan.
Comment ce scrutin est-il perçu par les étrangers? Plusieurs observateurs africains sont sur place pour suivre le processus. Idriss Fall a joint à la sortie d'un bureau de vote de Washington DC, Newton Ahmed Barry, président de la CENI du Burkina Faso.
Non, ce matin, on est sorti un tout petit peu pour regarder comment les votes se passent. Mais enfin, observateur ici aux États-Unis, c'est un bien gros mot. On est venu pour un programme qui est donc organisé par IFES, qui est donc une institution américaine qui s'occupe des questions électorales et qui assiste pas mal de commissions électorales africaines. Dans le cadre de ces élections américaines-là, ils ont invité un certain nombre de responsables, évidemment chargés des élections, mais également des juges ou des magistrats, un certain nombre de personnes qui ont tous quelque chose à voir dans les élections pour discuter, pour échanger. En fait, je pense que c'est autour de ça plutôt qu'il faut voir.
Donc, comme généralement, dès qu'il s'agit d'élections en Afrique, on parle d'élections libres et transparentes, est-ce que vous avez le sentiment que c'est déjà transparent et libre aux États-Unis?
Enfin, ce serait très prétentieux que je le dise, parce que j'ai vu peu de choses. Je suis allé dans des bureaux de vote. Vous savez qu'ici, aux États-Unis, les mécanismes ne sont pas les mêmes d'un État à un autre. Il faut d'abord le maîtriser avant de prétendre dire qu'il est transparent ou pas. J'ai juste regardé.
Mais pour le Burkina, quelles leçons vous pouvez tirer de ce que vous avez vu, par exemple, sur le déroulement?
Non, bon, enfin, nous, au Burkina, évidemment, c'est une autre chose. Les élections se présentent d'une autre façon. Nous avons notre façon de faire qui est différente totalement de celle qui se passe aux États-Unis. Après, il y a évidemment peut-être quelques aspects qui peuvent nous intéresser. Je crois qu'ici, le processus est totalement différent.
Voilà, c'était Newton Ahmed Barry, président de la CENI au Burkina Faso.
Aux États-Unis, il faut dire que le vote populaire ne détermine pas nécessairement le vainqueur de la présidentielle. Pour gagner, un candidat doit atteindre le seuil de 270 voix dans un collège de grands électeurs qui désigne à son tour le futur locataire de la Maison-Blanche. Chaque État a un certain nombre de voix au collège électoral. Pour plus d'explications, Eric Menirakiza a joint Émile Baroudi, journaliste indépendant à Washington.
Le système électoral de la présidentielle est assez compliqué, assez ancien, parce qu'il a été pratiquement impossible de le changer depuis probablement 100 ans, sauf pour des détails vraiment mineurs. Chaque citoyen qui élit dans son bureau électoral ne donne pas sa voix au candidat lui-même. C'est donner sa voix à des électeurs formés par ses voix. Et c'est le groupe d'électeurs qui, en fait, pratiquement élit lui-même le président et le vice-président, le ticket. Chaque État a un nombre d'électeurs égal au nombre de sénateurs et de députés qu'il a à Washington. La plupart des États ont le winner take all, ça veut dire que le candidat qui a la majorité prend tous les électeurs.
Donc aux États-Unis, avoir la majorité des voix sur tout le pays ne détermine pas nécessairement le vainqueur de la présidentielle.
Pas du tout. Le vote populaire n'est pas significatif parce que la structure fédérale des États-Unis fait que ce sont les États qui élisent et non pas tous les Américains en tant qu'un seul groupe. On se souvient de Bush contre Gore où le vote populaire avait donné une majorité de voix à Gore, mais c'est Bush quand même qui a été élu. Cette structure fédérale qui prend le dessus sur une structure plutôt unique comme il existe dans plusieurs pays du monde.
C'est aussi l'occasion de renouveler quelques siège au Sénat et élire les nouveaux députés dans la Chambre des représentants.
Effectivement, les députés fédéraux, les membres du US Congress, le House est totalement renouvelé toutes les deux ans. Évidemment, une fois sur deux, ça tombe avec l'élection présidentielle. Le mandat de chaque sénateur est de 6 ans, donc tous les 2 ans, le tiers des sénateurs sont remplacés. Cette année, ça va être 33, donc le tiers du Sénat va être renouvelé en même temps que l'élection présidentielle. Et c'est aussi l'occasion de changer complètement la structure de ces deux chambres du Parlement américain. Et c'est pour ça que ça revêt une importance assez grande, parce qu'on pense toujours et chaque candidat souhaite que pendant ces élections, il puisse avoir un congrès député et sénateur, qu'il ait une majorité dans chacune de ces deux chambres.
Pour pouvoir gouverner, c'est ça?
Effectivement, mais même ça, ce n'est pas évident. On se souvient de Barack Obama durant ces deux premières années où le président était démocrate. Le House était aux mains des démocrates, ils avaient une majorité absolue. Le Sénat était aux mains des démocrates où ils avaient la majorité des deux tiers. Et on se souvient que le projet d'Obama qui lui tenait le plus à cœur, c'est Obamacare, a finalement pris 2 ans pour passer. C'est très difficile parce que beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs pensent à leurs électeurs dans leur État, donc ils ont peur de ne pas être réélus.
Voilà, c'était Émile Bahoudi à Washington. C'est la fin de cette édition. Morgane Diayec et Gabi Dorcil à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui.